Que le Seigneur soit béni. Avec la foi, bien-aimé, David a battu Goliath. C'était un jeune enfant et Goliath lui a dit, mais tu viens devant moi avec quelques cailloux. David a dit, mais la victoire, ce n'est pas une question d'épée, ni de bouclier, ni de char de combat. C'est une question de Dieu. Et la victoire, je sais qu'elle appartient à l'Éternel, bien-aimé. Je prends souvent l'exemple d'une fourmi qui doit traverser toute l'étendue de cette salle pour sortir par la porte. Et elle a bravé plusieurs pieds des humains. Et c'est ce que nous sommes parfois en comparaison lorsqu'on voit la quantité d'ennemis, la quantité, la qualité, la force de l'adversaire qui est devant nous. On a l'impression d'être comme des fourmis. Et on n'est pas le premier à ressentir cela. Lorsque les enfants d'Israël devaient entrer dans la terre promise, ils ont eu l'impression d'être des sauterelles vis-à-vis de leurs ennemis. Mais nous avons une grande arme, c'est la foi. Et vous savez, un jour, nous dirons comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Là, on se retrouvera au ciel et c'est trop tard pour l'ennemi. Et c'est comme cette fourmi qui arrive à passer tout ce couloir pour arriver, pour sortir par la porte. Elle se dit, mais tiens, j'ai échappé à combien de pieds humains? Et nous, un jour aussi, à la fin de notre vie, si nous persévérons, nous pourrons dire, ouf, maintenant je puis aller au ciel me reposer. Donc il faut la foi, bien-aimé. Notre combat n'est pas facile, mais avec la foi, nous vaincrons. Amen. Alors aujourd'hui, c'est encore un combat puisque nous allons parler de quelque chose qui peut aussi déstabiliser certains ou certains ne peuvent peut-être pas comprendre ou diront s'exagérer, mais nous sommes obligés de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Nous allons parler d'un grand danger, le danger des symboles, images et autres. On a déjà prêché là-dessus, mais nous revenons parce que le peuple de Dieu se renouvelle et tout le monde a besoin d'entendre les messages du Seigneur. Et nous commençons par lire dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. La Bible dit dans Ésaïe 14 à partir du verset 12. Ésaïe 14 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Alors ce texte est un des textes qui nous explique les origines. Là, on dit un homme, mais en réalité, on est en train de parler du diable, parce que seul le diable peut ravager les royaumes, peut contrôler certains pays. Seul lui peut avoir la puissance dont il est question ici, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert. Et seul lui peut avoir aussi la tentation qui est exprimée au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur les sommets des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Donc seul le diable peut aller jusqu'à ce niveau-là dans la volonté de faire le mal. Donc le diable avait eu l'idée d'être comme Dieu, de dépasser Dieu en autorité. Vous savez, chaque jour, voir comment Dieu a été adoré, ça lui a donné une sorte de jalousie. Donc, c'est ça l'origine du péché. Donc, il voyait chaque jour Dieu être adoré, considéré par les anges, comme Dieu avait créé aussi. Donc, dans d'autres passages, vous pourrez lire à la maison, dans Ézéchiel 28, on explique aussi les mêmes choses. On dit que Dieu avait créé Satan avec beaucoup, à l'époque c'était Lucifer, il avait créé avec beaucoup d'éclat. Et comme il avait beaucoup d'éclat, il s'est dit en lui-même, mais pourquoi on adore Dieu et moi on ne m'adore pas? C'est ça la jalousie. Il a voulu être comme Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc, il a voulu prendre la place de Dieu pour que lui aussi soit adoré. C'est comme beaucoup de dictateurs, certains même faux pasteurs, veulent à un certain moment prendre la place de Dieu pour être adoré à la place de Dieu, pour être élevé à la place de Dieu. Certains humains ont parfois cette tentation-là. Mais le diable, c'est lui la source de cette tentation-là chez les humains. C'est lui qui a commencé. Le péché a commencé avec lui. Donc, gardez cela en mémoire. Le péché n'a pas commencé par le vol. Le péché n'a pas commencé par la bagarre. Le péché a commencé par la volonté d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui est en tout homme. Aujourd'hui, quand les gens disent « c'est ma vie », quand les gens disent « c'est pas mon problème leurs histoires de Dieu », c'est le même péché. Le péché de se dire « je suis mon Dieu, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas mon problème ». C'est le même péché qui continue. Quand les enfants désobéissent aux parents, ne veulent pas suivre la voie de Dieu, ils sont en train de recommencer le même péché que le diable a commencé en disant, eh bien, je veux être comme le Très-Haut, c'est ma vie, moi aussi je suis fort. Un enfant, il se sent jeune, il se sent rempli de vie, il se dit, je suis fort, je suis beau, je suis grand, je fais ce que je veux. C'est le même péché, vouloir se diviniser, croire qu'on est autonome. Or, on n'est pas autonome, or, on a été créé. Et donc, c'est le péché qui est à l'origine de tous les autres, c'est le péché de vouloir être adoré à la place de Dieu, le péché d'être élevé à la place de Dieu. Et on peut le commettre de plusieurs manières. Il y en a qui idolâtrent leur enfant, ils mettent leur enfant à la place de Dieu. Il y en a qui mettent leur maison à la place de Dieu. Mais c'est ça l'origine de tout. Quand l'homme même pêche dans le vol, le mensonge, l'impudicité, à un certain moment, il s'autorise à pécher. Il se dit, bon, je me sens trop faible, je pêche. En quelque sorte, il s'est donné la place de Dieu. Et vous savez, le diable au début, il a échoué. Il a voulu prendre la place de Dieu, il a échoué. Mais il n'a pas renoncé. C'est ça la différence. Il a échoué au début, mais il n'a pas renoncé. Il veut recommencer. Et il a toujours recommencé en voulant faire que l'homme puisse l'adorer. Et comment l'homme peut l'adorer? En adorant autre chose que Dieu. C'est comme ça que le diable fait. Et on va parler de certaines choses. Certains vont dire, mais oui, mais je ne vois pas forcément le lien avec le diable. Mais bien aimé, le diable est spécialiste du déguisement. Dans Jean 8, 44, il est appelé le père du mensonge. Il est le père du mensonge, spécialiste du déguisement. Une de ses grandes stratégies, c'est se déguiser en quelque chose de beau. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose de très beau sur la terre, faites attention. Ça peut être beau par les yeux et beau par les oreilles. Faites attention. Ça peut être beau par l'intelligence. Faites attention. Le diable a la capacité de se déguiser en quelque chose de très beau. C'est comme un gâteau empoisonné. Donc quand tu vois le gâteau, la couleur du gâteau, la texture du gâteau, tu dis, mais c'est merveilleux, je vais manger. Mais dès que tu finis de manger, les maux de ventre commencent et c'est la mort. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le diable écrive « gâteau empoisonné ». Mais son but, c'est de te tuer. Il ne peut pas écrire « gâteau empoisonné ». Nous, on veut qu'il écrive « attention ». Mais comment quelqu'un peut mettre « attention » alors que lui, il veut que tu tombes dans le piège? Réfléchissons. Alors quand on va présenter les choses, ma mère, le pasteur, il exagère. Mais oui, mais ça sera toujours comme ça. On va toujours exagérer jusqu'à ce que tu te retrouves un jour en enfer. Tu meurs, tu te retrouves en enfer. Il y a un démon avec un visage horrible qui t'ouvre la porte et dit « Bienvenue, mon ami ». Est-ce qu'on doit dire « Bienvenue »?« Malvenu, mon ami ». Et c'est là que tu dis « Mais le pasteur avait raison, mais c'est trop tard. Tu veux te retourner, il t'accroche. » Et c'est fini. Bien-aimé, c'est le moment où tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce que le pasteur gagne en te prévenant? Donc, tu es prévenu par Dieu. Lui n'est qu'un canal. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, nous continuons. Gâteau, cadeau empoisonné, ça c'est le système du diable. Son but, c'est quoi? C'est que par les gâteaux, par tout ce qui est beau, par tout ce qui est à la mode, t'attirer toi pour l'adorer. Et comme tu vas l'adorer, tu vas éloigner Dieu de ta vie. Puisque Dieu veut être adoré lui seul. Et quand on adore autre chose, ça s'appelle idolâtrie. Et quand tu le fais, tu éloignes Dieu de ta vie. Et quand tu éloignes Dieu de ta vie, Satan met la main sur toi. Parce que seul Dieu peut l'empêcher de mettre la main sur toi. C'est ça son objectif. Et que tu éloignes Dieu de ta vie. Et nous lisons Ézéchiel au chapitre 8. La Bible dit ceci à partir du verset 5. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levais les yeux du côté du nord. Et voici, cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les ténèbres, dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Voilà, bien-aimé, Dieu prend Ézéchiel et il amène en esprit voir comment les anciens, ceux qui sont censés maintenir la tradition de la parole de Dieu, sont en train d'adorer des idoles. Et il y avait des figures de toutes sortes, des reptiles, toutes sortes de figures, des bêtes abominables. Bien, mais ce n'est pas moi qui a écrit la Bible. Donc c'est écrit, c'est Dieu lui-même qui dit toutes sortes de figures au verset 10, de reptiles et de bêtes abominables. Donc Dieu appelle certaines bêtes abominables. Nous allons continuer. C'est ce qui fait que Dieu nous a donné un commandement dans Exode 20, 3 à 6, que nous allons lire tantôt, qu'il ne faut pas faire des représentations. Parce que le but du diable, c'est qu'on puisse l'adorer. Et maintenant, comment lui tire l'adoration? Du moment qu'on s'écarte de l'adoration de Dieu, on tombe dans son escarcelle à lui. Et c'est ainsi que autrefois les gens adoraient des statues, ils adoraient des monuments, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune. Ce faisant, ils adoraient le diable parce qu'ils n'adoraient pas Dieu. Parce qu'il n'y a que deux puissances, soit la puissance de Dieu, soit la puissance du diable. Et ils adorent la créature et non le créateur. Et ces gens faisaient toutes ces choses Et ça, moi, j'appelle ça l'idolâtrie directe. C'est-à-dire directement, ils allaient se prosterner devant des statues, devant le soleil, devant la lune. C'est l'idolâtrie directe. Mais nous, comme nous connaissons ces choses-là, même certains incroyants, aujourd'hui, savent bien que le soleil ne doit pas être adoré, et la lune ou bien les étoiles. Le diable a trouvé d'autres processus à partir desquels il peut tirer l'adoration en sa faveur. Parce que, souvenez-vous, le grand combat de ce monde, c'est le combat de l'adoration. Dieu avait créé les choses. Il avait, entre autres, créé Lucifer, un ange brillant. Cet ange-là a considéré que c'est lui qui doit être adoré. Et à partir de cela, le péché a commencé. À partir de cela, le monde a connu le mal. Et ce combat-là va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le diable soit envoyé dans le feu éternel. Donc, tant que le monde continue, ce combat-là continue, où le diable cherchera toujours à récupérer l'adoration. Et il a un deuxième objectif, il va chercher à faire perdre l'homme pour l'amener dans le feu éternel. C'est ça le deuxième objectif. S'il ne réussit pas, c'est que tu l'adores correctement, mais il va réussir quand même en t'éloignant de Dieu pour t'amener en enfer. Et donc, les gens construisent des idoles pour les adorer. Ils prennent un morceau de bois. Eux-mêmes, ils coupent l'arbre. C'est ce qui est écrit dans Isaïe. Ils coupent l'arbre avec une partie. Ils chauffent la maison. Avec une partie, ils préparent la nourriture. Et avec une partie, ils font un dessin, une sculpture. Ils disent, voici mon Dieu. Alors, qui est bête dans cette affaire? Le bois ou l'homme? C'est l'homme. Puisque l'homme, il construit lui-même la statue. Après, il appelle la statue son Dieu. Mais toi, tu construis une statue, tu appelles la statue ton Dieu. Comme aujourd'hui, la cigarette. Certains croient qu'ils sont courageux. Vous savez, quand on était jeune, on croyait que quand tu fumes, c'est là que tu es courageux. Mais non, quand tu fumes, c'est là que tu es bête, parce qu'un morceau de papier et de feuilles est en train de te dominer. Un homme de 1m80, un homme de 1m60, c'est pas normal. Et tu sais que les poumons seront détruits, tu continues à fumer. Qui est bête dans l'affaire? C'est toi. Et on croyait que c'est comme ça qu'on devenait courageux. Quel style, bien-aimé. Tu deviens courageux avec un bon jus d'orange, surtout mélangé avec un peu de purée de banane et un chocolat chaud. Là, tu es un homme courageux. Amen. Tu es courageux si tu peux demander pardon aux gens. Écoute, excusez-moi pour tout ce que j'ai fait. Ça, c'est le courageux. Ceux qui pensent se fâcher, faire ça, mais c'est des poltrons. Vous savez, comme les petits chiens, ils aboient fort. Mais les chiens forts, ils aboient pas, ils sont là tranquilles. C'est ça, bien aimé. Le courage, c'est savoir demander pardon. Le courage, c'est aimer. Ça, ce n'est pas facile. Le courage, c'est supporter les mauvais. Ça, ce n'est pas facile. Mais haïr, tout le monde peut le faire. Même les animaux. Donc, le courage, c'est l'amour. Nous revenons à notre sujet. L'idolâtrie, puisque Satan sait qu'on connaît l'idolâtrie, on reconnaît l'idolâtrie par rapport aux statues et autres, alors il nous amène dans d'autres formes d'idolâtrie. L'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie, des choses de ce monde, et une autre idolâtrie. C'est ce que j'appelle indirect, c'est à travers des symboles, des images, nous amener à l'adorer lui. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, il nous a demandé de faire attention. Bien-aimés, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la décoration et l'idolâtrie. Je ne suis pas contre la décoration, je suis contre l'idolâtrie. Lorsqu'on met des choses pour décorer, ce n'est pas mauvais, mais tout dépend de ce qu'on met. Il y a certaines choses qu'on peut mettre, ça peut être traduit comme de l'idolâtrie. Et nous lisons Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. La Bible dit ceci. À partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà l'ordre du Seigneur. Le Seigneur, connaissant les stratégies du diable, nous a donné déjà ce commandement à l'avance. Attention aux représentations. Tu ne te feras pas des représentations des choses et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Et certains vont dire, oui, mais moi, je ne me prosterne pas devant ma statue de Marie. Mais comment tu sais que c'est Marie, cette statue-là? Est-ce que toi, tu l'as vue un jour, Marie, et puis tu sais que ça, c'est sa statue? Qui peut dire qu'il a vécu avec Marie pour la sculpter? Personne. Donc, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, homme. C'est un démon qu'on appelle Diane d'Éphèse. Et donc, ce n'est pas une question de se prosterner forcément physiquement. C'est une question de se prosterner spirituellement. Quand on donne une importance à une statue, à un objet, à une image, comme si elle était parfois ta protection, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'une idole, ce n'était pas au hasard qu'on faisait les idoles. Elles avaient des fonctions. Il y a des idoles qui étaient adorées comme le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, de la fécondité, le dieu de la guerre, le dieu de la protection familiale. Donc, il y a une fonction. Et donc, quand tu commences à donner une importance protectrice à quelque chose, eh bien, c'est de l'idolâtrie toujours. Et Dieu, sachant cela, connaissant, la puissance de la tentation par les yeux, parce que l'homme attache beaucoup d'importance à ce que ses yeux regardent, ce que ses yeux voient. Et c'est écrit aussi dans 1 Jean 2, 15 à 16. Ce qui est dans l'homme, c'est la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Et cette convoitise des yeux pousse l'homme à attacher beaucoup d'importance à ce qu'il voit. Or, Dieu, on ne le voit pas. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne faut pas faire des représentations, il ne faut pas se prosterner, donner de l'importance à ces représentations-là. Parce que vous allez tomber dans l'idolâtrie. Et sachant, et le diable aussi le sachant, que l'homme a une grande faiblesse par rapport aux yeux, eh bien, il va tout faire pour que l'homme se dessine des choses, représente des choses, ait des représentations sur lesquelles il va s'accrocher. Nous voyons un exemple patent de cela dans Exode, lorsque les enfants d'Israël, malgré cet avertissement, ont fabriqué un veau d'or. C'est eux qui ont fabriqué le veau. Mais ils disent que c'est le veau qui les a sortis d'Égypte. Or, ce veau-là n'existait pas avant, quand eux, ils étaient en Égypte. Donc, ils ont fait le voyage d'Égypte sans que ce veau-là existe. Ils arrivent au désert, ils fabriquent le veau, ils disent, voici notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Bien-aimé, quelle ingratitude. Ça montre la grande puissance, parce que certains peuvent rigoler en disant, mais ils étaient quand même bêtes, ces enfants d'Israël. Non, ils ont succombé à la tentation. La tentation qui guette tout homme d'avoir des représentations, d'avoir des choses visibles sur lesquelles il puisse se reposer. Et nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui succombent à cette tentation. Ils veulent qu'en priant pour quelqu'un, la personne tombe. Et si la personne ne tombe pas, ils poussent la personne pour que la personne tombe. C'est toujours la même tentation de vouloir à tout prix voir pour croire. Or, Jésus a dit, il faut croire et on verra après. C'est toujours la même tentation. On veut voir beaucoup de monde remplir la salle pour dire « Dieu est au milieu de nous ». Lorsqu'on est 4-5, ben Dieu n'est pas là. C'est toujours la même tentation. On peut toujours rigoler sur les enfants d'Israël, mais beaucoup, moi je suis pasteur, je connais la vie de beaucoup de gens au milieu de nous. Je sais que beaucoup tombent chaque jour dans cette tentation-là, mais ils peuvent toujours rigoler, dire « Mais ils ont fait le veau d'or, mais vous, qu'est-ce que vous faites chaque jour ? Vous dépendez, combien de chrétiens dépendent-ils ? Du visible, ne dépend-il pas du visible? Ils attendent de voir pour sentir que Dieu est là. Alors que Dieu a dit, il faut que le juste vive par la foi. C'est ça le problème. On peut toujours se moquer des enfants d'Israël, mais vérifie dans ta vie, à toi. Et depuis tout ce temps-là, le veau n'existait pas. Mais ils créent le veau, ils disent, ben c'est ça, notre Dieu. Donc, il faut bien aimer reconnaître là, nous tous, nous avons une faiblesse. C'est la faiblesse de la chair. Le fait de vouloir voir pourquoi. Le fait de vouloir saisir des choses, se reposer sur des choses visibles, sur une église visible, sur un bâtiment beau, fort. Donc, on a cette tentation-là. Et beaucoup tombent par rapport à cela, régulièrement, la tentation des yeux. Et le diable sait cela. Alors, il va miser sur cela pour nous pousser à faire des représentations, à attacher de l'importance à des représentations. Et petit à petit, nous virons vers l'idolâtrie, l'adoration des idoles, ce qui nous éloigne de Dieu. Et quand ça nous éloigne de Dieu, il en profite pour se lâcher sur nous. Il en profite pour nous frapper. Et c'est ce qui s'est toujours passé dans l'Ancien Testament. À chaque fois, les enfants d'Israël sont partis toujours vers l'idolâtrie en construisant des hauts lieux. Les hauts lieux, c'est des endroits surélevés sur lesquels ils déposaient une idole. C'était le signe que l'idole avait beaucoup plus d'importance, quoi. Donc, on élève l'idole. Donc, l'idolâtrie, c'est aussi élevé. C'est rechercher une protection, un objectif auprès d'un faux dieu, d'une idole. C'est se prosterner physiquement, c'est chanter pour l'idole, mais c'est aussi l'élever, lui donner une certaine considération au-dessus de l'homme. Et il construisait des hauts lieux pour faire cela. Et à chaque fois, Dieu s'éloignait d'eux. Et quand Dieu s'éloignait d'eux, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et quand ils étaient livrés à eux-mêmes, quand il fallait revenir à Dieu, Dieu exigeait aux prophètes, aux serviteurs qui étaient les bergers, de détruire d'abord les idoles. Et nous lisons dans Juges 6 un exemple de cela. Juges 6. La Bible dit dans Juges 6, à partir du verset 1er, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écoutez ma voix. » Voilà, bien-aimé, l'origine de la souffrance du peuple, c'était l'adoration des faux dieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans les milieux chrétiens, nous voyons comment le peuple souffre à cause de l'adoration des faux dieux. Il y a des blocages, des difficultés. Il y a des églises qui prient, qui prient 10 ans, 15 ans, mais il y a des blocages parce qu'il y a l'idolâtrie. Et aujourd'hui, je vais parler de la simple idolâtrie indirecte, celle qui consiste à adorer le diable, mais d'une manière indirecte, pas d'une manière claire. Et là, Dieu leur envoie un prophète quand ils ont crié. Et qu'est-ce que le prophète leur dit? Écoutez, vous avez péché contre Dieu, vous avez fait de l'idolâtrie, revenons à notre Dieu. C'est cela, bien-aimé. Et nous allons voir la conséquence. Dieu suscite Gédéon. au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Bien-aimé, Gédéon est dans la tristesse à cause de la souffrance qu'il vit et que son peuple vit. Et l'ange de Dieu lui apparaît, il dit à l'ange, mais comment on souffre comme ça? Et Dieu dit à Gédéon, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. C'est toi que j'ai choisi. Et vous allez voir qu'est-ce que Gédéon va faire. Il reçoit d'abord l'ordre. Au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Alors, bien-aimé, première instruction de Dieu, il faut renverser l'autel de Baal. Première instruction de Dieu. Parce que c'est ça qui empêche Dieu d'agir au milieu de son peuple. Le fait qu'il y ait l'idolâtrie, qu'on adore d'autres dieux. Renverser l'autel de Baal. Et Gédéon le fait, mais comme il avait peur de son propre peuple, même pas de l'autre peuple, de son propre peuple. Parce qu'il savait que son peuple était déjà piégé. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont peur des chrétiens. Ils savent que les chrétiens sont déjà piégés par certains problèmes. Alors, ils ont peur de prêcher la vérité parce qu'ils vont faire fuir les chrétiens. Moi, je dis, bien-aimé, si tu dois fuir, je te dis au revoir, si Dieu va te récupérer plus tard, ou à Dieu si tu iras en enfer. Donc, la vérité seule sauve. C'est la vérité qui sauve. Même si tu dois être pasteur de 3 personnes, sois pasteur de 3 personnes dans la vérité. Au moins, tu es sûr que tu les amènes au ciel. Pas de compromis, bien aimé, avec la vérité. Et Gédéon l'a fait quand même, mais la nuit, pour qu'on ne le voit pas. Mais les gens ont su quand même que c'était lui. Qui se plaint quand Gédéon renverse l'autel de Baal? C'est son propre peuple. Aujourd'hui, quand certains hommes de vérité renversent les autels de Baal qu'il y a dans l'église ou dans le milieu chrétien, qui se plaint? C'est les chrétiens à fréquence modérée qui se plaignent. Oh, mais non, mais il exagère, mais non. Oh, mais pourquoi toi tu viens prendre le parti du diable? Si ce pasteur-là se bat contre le diable, laisse-le se battre. Ce n'est pas à toi de prendre le parti du diable. Ah non, mais il exagère. Mais non, bien-aimé, le chrétien charnel dit toujours il exagère. La Bible, c'est la vérité. Et Gédéon, le papa de Gédéon a dit à ces gens-là, mais écoutez, ce n'est pas à vous de défendre Baal. Baal, puisqu'on dit que c'est un dieu, Gédéon a renversé son autel, il n'a qu'à se défendre lui-même. Hein. Il y a des moments où nous prêchons sur des choses même en parlant de la politique. Il y a des gens qui ont peur, mais on risque de tuer. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a créé les politiciens, il a créé tous ces gens-là, c'est lui qui les a créés. Donc il peut les garder, il peut les bloquer s'ils veulent te tuer. Il faut prêcher la vérité en toute occasion, favorable ou non, sans craindre qui que ce soit. Tant que c'est la vérité, Dieu sera avec toi. Amen. Joas a dit, mais laissez Baal se défendre tout seul, puisqu'il est Dieu. Bien-aimé, le chrétien, arrêtons de vouloir protéger le monde. Arrêtons de vouloir protéger le monde. Mais laissons l'homéopathie tranquille. Ah, le pasteur exagère avec l'histoire d'homéopathie, il exagère avec l'histoire de l'ostéopathie, bien-aimé. Puisque l'ostéopathie est forte, laissez-la se défendre tout seul. Vous occupez-vous de prier et de lire la Bible. Bien-aimé, c'est clair. Dieu nous demande de défendre la Bible. Si vous trouvez que quelqu'un s'attaque à autre chose, vous occupez-vous de prier pour que la Bible soit défendue. Ne cherchez pas à vous mêler parfois de ce que Dieu ne vous a pas demandé de vous mêler. Laissez certains attaquer certaines choses et priez s'ils sont dans l'erreur que Dieu les ramène à la vérité. Mais ne cherchez pas à défendre ces choses-là. Amen. Les humains peuvent se tromper même s'ils sont pasteurs, mais nous ne sommes pas là pour vouloir défendre des choses qui sont dénoncées, qui sont dans le monde. Nous sommes là pour défendre la vérité, la Bible. Et prions si nous pensons que quelqu'un exagère. Nous continuons. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Réveil en Israël. Dieu libère son peuple et son peuple est libre. Amen. On va lire un autre réveil dans 2 Rois 18. Avant chaque réveil, il faut purifier l'endroit où le peuple se trouve. 2 Rois 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 5 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néouchtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Conséquence, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Amen. Ézéchias arrive au pouvoir au moment où Israël est dans l'idolâtrie. Et c'est la pauvreté, c'est l'esclavage, c'est la captivité. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, nous relisons, il fit disparaître les hauts lieux. Tous les endroits où il y avait des idoles surélevées, il les fait disparaître. Je parle souvent de ce mot-là, hauts lieux, pour que vous compreniez ce à quoi je vais aboutir tout à l'heure. Il fait disparaître cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise les idoles, les statues, et jusqu'à mettre en pièces le serpent que Moïse avait laissé, qui s'appelait Néouchtan. On se souvient de l'épisode au désert, lorsque les enfants d'Israël étaient piqués, Dieu avait demandé à Moïse de faire un serpent en or, d'airain, de bronze, et de sorte qu'en regardant le serpent, ceux qui étaient piqués soient guéris. Mais après Moïse, les enfants d'Israël ont continué à adorer, ont commencé plutôt à adorer ce serpent-là. Et il faisait des cérémonies religieuses. L'idolâtrie peut se faire avec des objets qui sont au milieu des chrétiens, comme ce fut le cas pour le serpent Néouchtan. On peut commencer à idolâtrer un pasteur, on peut commencer à idolâtrer le livre, la Bible, c'est-à-dire certains vont commencer à dormir sous l'oreiller, ils mettent la Bible, tout ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie peut se faire avec des objets qui sont au milieu des chrétiens, comme ce fut le cas avec Néouchtan. Et Ne vous étonnez pas que peut-être dans mon discours, je touche à des choses qui sont au milieu des chrétiens. La vérité libère. Voilà. Mais la leçon, c'est quoi? Quand on est dans l'idolâtrie, c'est la souffrance, c'est le blocage. Et quand on se répand, les idoles sont abattues, la puissance de Dieu revient, on vit la délivrance du Seigneur. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut comprendre. Et nous passons au Nouveau Testament où nous avons encore des gens du réveil qui se sont levés contre l'idolâtrie dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Chapitre 17, Actes des Apôtres. La Bible dit ceci, au verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Il s'agit de Jésus. Paul est outré. La Bible dit qu'il était irrité de voir les idoles à Athènes, jusqu'à voir une idole sur qui c'était écrit un Dieu inconnu. Ces gens-là étaient idolâtres. Et Paul dit, mais c'est pas normal. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Et nous en avons la preuve par sa résurrection. Et moi, je dis la même chose. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a envoyé son fils Jésus sur la terre. Les autres dieux, c'est des faux dieux. La cigarette, la mode, c'est des faux dieux. Et les symboles et les images que l'ennemi est en train de déverser dans le monde, il a déjà commencé, c'est des faux dieux. Il faut faire attention, vous risquez d'entrer dans l'adoration indirecte. Et cette adoration indirecte va éloigner Dieu de votre vie. Et ça sera la souffrance qui va s'en suivre. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 19. L'apôtre Paul dénonce l'idolâtrie. Et nous ne sommes pas plus forts que Paul. Nous sommes simples comme lui aussi, des humains. Si eux, les premiers chrétiens, ont dénoncé, nous aussi, nous allons continuer à dénoncer. Verset 18, Actes des Apôtres 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. L'apôtre Paul attaquait les idoles, attaquait la magie, les livres de magie, les symboles magiques. Et quand les gens brûlaient tout ça, la parole de Dieu croissait avec puissance. Tous les symboles magiques doivent être attaqués. Maintenant, je vais m'expliquer par rapport à l'adoration indirecte. On a dit une idole, c'est quelque chose à qui l'on prête une certaine puissance ou un certain que l'on élève. Élever, c'est donner une importance au-dessus des autres. Et exposer quelque chose pour que ça soit admiré, c'est la même chose. C'est élever la chose. Quand tu exposes, comme là nous avons exposé des versets bibliques, ben, c'est pas parce qu'on veut que ça soit, que les gens qui lisent croient en cela. Donc, on donne une importance au-dessus de nous-mêmes. Mais c'est la parole de Dieu, c'est logique. Alors, quelque chose qu'on expose peut nous amener dans l'adoration indirecte. Même si ce n'est pas nous qui nous prosternons, mais nous élevons cela, nous conduisons les autres à être, à admirer la chose et à entrer dans une forme d'adoration indirecte. C'est ce qui explique la stratégie du diable. Puisqu'il sait que l'intelligence humaine aujourd'hui comprend beaucoup plus facilement l'adoration directe, il entre dans l'adoration, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie directe, il entre dans l'idolâtrie indirecte. Donc il va faire qu'on attache beaucoup d'importance à certains symboles qu'on va mettre sur nos maisons, qu'on va mettre sur les vêtements, de sorte à ce qu'ils soient exposés. Et quand ils sont exposés, bien aimés, nous sommes en train de servir de canal pour une élévation indirecte, pour une adoration indirecte. Les symboles magiques, il y en a, on va les voir. Les symboles des sociétés ésotériques, il y en a, on va les voir. Mais il y a aussi des symboles que je peux dire banals, mais qui ont leur importance, les symboles d'animaux, les images d'animaux. Nous avons lu dans Ézéchiel au chapitre 8, Dieu a dit, et certaines bêtes abominables, ces figures-là étaient sur les murs. Et Dieu était contre cela. Et aujourd'hui, il y a des t-shirts, des vêtements qui sont faits avec, par exemple, des images de dragons. Mais la Bible dit en Apocalypse que le dragon, c'est le diable. C'est le symbole du diable. Dans Apocalypse au chapitre 12, on l'appelle le dragon, le serpent ancien. Et donc, quand on affiche sur son t-shirt, sur sa chemise, un tel symbole, on est en train d'élever le diable à travers cela. Il y a certains animaux, le serpent, léopard, crapaud. Tu mets des animaux qui sont utilisés dans le monde satanique pour faire des rites. Mais il y en a qui vont dire, mais les animaux, c'est Dieu qui les a créés. Oui, c'est Dieu qui les a créés. Mais quand le péché est entré, il y a eu dégénérescence, il y a eu pollution. Et tous les animaux n'ont pas subi la même dégénérescence. C'est pourquoi quand Dieu fixait les animaux à manger, il a empêché que ses enfants mangent certains animaux, puisque le fils d'Israël mange certains animaux, parce que la dégénérescence dans le péché a été forte dans ces animaux-là. Et certains animaux ont en eux-mêmes une puissance qui facilite l'utilisation par les magiciens et les satanistes. Vous verrez, les magiciens, les satanistes, ils vont pas utiliser tous les animaux, ils vont utiliser certains animaux. Et le serpent est un de ces animaux-là qui symbolise carrément le diable. Donc quand tu mets un serpent, tu es en train d'élever le diable. Mais tu peux dire, non, mais moi je l'élève pas. Mais qui a fait ce serpent-là? C'est pas toi qui a fait le t-shirt. La personne qui a fait le t-shirt, c'est ça son objectif. Toi, tu achètes le t-shirt, tu contribues accomplir l'objectif de la personne qui a fait le t-shirt. Même si ce n'est pas toi qui a fait. Toutes sortes de symboles que le diable envoie, c'est pour faire passer les gens à l'idolâtrie indirecte. Et vous savez, une image ou une statue contient un démon si ça a été fait pour cela. quelqu'un dans son usine, il fait ça pour vénérer un démon. Toi, tu mets ça chez toi. Toi, tu mets ça sur ton t-shirt. C'est un démon que tu élèves. Vous savez, il y a un pasteur qui avait une statue chez lui. Un jour, une sœur de l'église est venue le voir pour dire, « Pasteur, cette statue-là, Dieu m'a dit que c'est ça qui bloque son action dans l'église. » Le pasteur a dit, « Mais attends, réfléchis, hein, parce que cette statue, c'est mon père qui était pasteur qui me l'a... je l'ai reçu par mon père qui était pasteur. C'est quand même un pasteur qui me l'a donné. » La sœur a dit, « Moi, c'est Dieu qui me dit que cette statue est mauvaise. » Le pasteur a douté. L'église continuait toujours à dépérir. La sœur redit encore au pasteur. Et un jour, lui-même, le pasteur fait un songe. Dans le songe, on lui explique que la statue qui est dans sa maison, c'est une statue qui représente des femmes qui dansent pour des dieux indonésiens. Donc son père était pasteur là-bas, il avait acheté la statue là-bas, et le fait que ça soit des danseuses pour des dieux, eh bien, ça portait la gloire négative de ces dieux-là dans la maison du pasteur, comme c'est lui le berger, eh bien, ça se répandait sur l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ce sont des réalités. Quand il a compris ça, il a enlevé, il a été beaucoup plus tranquille. C'est de l'idolâtrie indirecte, sans qu'on s'en rende compte. Mais le diable, lui, ne va pas dire, mais tu t'en rends pas compte, mais c'est à lui. C'est comme vous nettoyez bien une maison et vous mettez une viande pourrie, vous dites, bon, comme la maison est propre, les mouches ne vont pas venir. Mais non, les mouches ne s'intéressent pas à la partie propre, vont s'intéresser à la viande. C'est pour elles. Donc elles vont venir. Donc si tu as quelque chose qui est du diable, même si tu mets le nettoyage à côté, il va venir contrecarrer. Il va venir agir parce que c'est à lui. Si quelqu'un fait le t-shirt, il a fait que ce soit un symbole satanique, même si tu dis, mais moi je ne crois pas en ça, ben c'est pas toi qui as fait. Donc ça, le ennemi, le démon qui est lié à cette image-là, viendra te perturber la vie. Vous savez, il y en a aussi qui pensent, mais oui, mais malgré le fait que j'ai ça, je marche bien avec Dieu. Mais c'est l'apparence que tu as. Vous savez, bien aimé, si on met 20 enfants de 5 ans devant moi pour m'empêcher de sortir, je finirai par sortir. Mais ils vont me retarder quand même. S'ils ont comme but de m'empêcher de sortir, même s'ils n'ont que 5 ans, eh bien, je vais m'en sortir parce qu'ils n'ont que 5 ans. Et ils sont 20. Mais ils vont me retarder. Ils peuvent me retarder de 10 minutes. C'est comme ça que le diable retarde beaucoup de gens, les bloque. Mais ils ont l'impression qu'ils bougent toujours. C'est pas parce que tu bouges que tu fonctionnes selon dans le plan de Dieu. Tu peux être toujours retardé par ces choses-là. Donc, il faut être attentif. Il faut pas se dire, mais malgré ça, je ne vois rien. Mais ça, c'est toi qui ne vois pas. Mais ils agissent parce que c'est à eux. Donc, l'histoire des animaux, c'est lié à la dégénérescence. Et du moment que tous les animaux n'ont pas connu la même dégénérescence, les forces de ténèbres utilisent ceux qui ont connu une forte dégénérescence dans le mal pour pouvoir, faire leur chose. Vous savez, un petit exemple, c'est que pour trouver quelqu'un qui n'a pas peur des serpents, il faut chercher. Hein. Alors, pourquoi on a peur du serpent, on n'a pas peur du canard? Je n'ai jamais vu quelqu'un voir le canard et fuir, ou voir un lapin et fuir. Au contraire, oh, quel beau lapin! Mais quand on voit le serpent, mais il n'a même rien dit, il ne s'est même pas avancé vers toi, on saute. Donc il y a une puissance là qui n'est pas la même qu'il y a chez le lapin. Quand on voit un léopard à distance, donc avec les jumelles, on dit, bon, là je prends un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté sauvage qui te fait peur. Donc la dégénérescence n'est pas identique. Donc la dégénérescence dans le péché n'est pas la même. Donc il faut comprendre ces choses-là. Et les puissances sataniques connaissent cela et ils utilisent en fonction de tout ça. Nous continuons. Et nous allons mettre une liste des symboles sataniques. Nous allons afficher cela, des symboles sataniques en vogue pour prévenir les gens qui ne sont peut-être pas au courant. Certains mettent parfois des bijoux avec Pharaon, tout ça. Mais Pharaon, c'est un dieu. Toi, tu vas mettre Pharaon, donc... Tu viens maintenant faire sa publicité alors qu'ils sont déjà morts depuis 3000 ans. Donc, attention à ces commets. Il y en a parfois qui disent, mais ouais, mais pasteur, mais ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais justement, puisque tu ne sais pas ce que ça veut dire, vaut mieux s'abstenir. Faut faire des choses qu'on connaît. Il y a des gens qui vous diront, pasteur, ni toi ni moi, nous savons ce que ça veut dire. Mais justement, puisqu'on ne sait pas. Quand il y a le doute, vaut mieux s'abstenir, a dit quelqu'un. C'est clair. Donc, il ne faut pas après entrer dans une guerre de « mais qu'est-ce qui te prouve ?» Non. Si toi-même qui as mis ça, tu ne sais pas, vaut mieux abandonner. Il y en a qui mettent des médailles de leur pays, des choses comme ça. Mais le pays devient ton Dieu, tu exposes. Maintenant, ton pays, tu l'exposes, ça devient ton Dieu. Non, il faut mettre des médailles avec Jésus-Christ t'aime. Voilà, ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, nous allons dire ça en clôturant. Et nous faisons passer les signes. Nous commençons par le premier signe. Le premier signe. Non, c'est pas ça le premier. Mais il y a l'ordre. Mais Christian, il fallait... Oui, à gauche, il y a l'ordre. À chaque fois que tu cliques... Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible. Nous commençons par ce signe-là qu'on appelle l'œil qui voit tout. Et en général, les francs-maçons utilisent ce signe pour montrer que ils sont les plus puissants de la terre. Ils arrivent à tout voir, mais ils sont pas du tout puissants parce qu'ils meurent un jour. Donc, seul Dieu voit tout et il le prouve et il est éternel. Mais partout où vous verrez un signe d'œil, mais c'est pas toujours cet œil-là. Nous allons prendre le dollar pour voilà. Donc dans le dollar, il y a un triangle et dans ce triangle-là, il y a un œil. C'est vraiment le triangle maçonnique et l'œil maçonnique. C'est leur puissance pour dire, ben nous voyons tout, mais alors qu'ils ne voient pas du tout tout. Ils ne voient que ce que Dieu permet qu'ils voient. Donc, si Dieu veut les rendre aveugles, il va les rendre aveugles. Mais c'est leur signe. Donc, attention à porter des vêtements ou avoir des choses qui comportent ces symboles-là. Peut-être c'est mieux qu'on éteigne cette partie pour qu'on puisse fermer les fenêtres pour qu'on puisse mieux voir. Et puis, on passe au symbole prochain. Voilà, il y a le pentagramme. Donc, c'est une étoile avec un cercle, une étoile de 5 sommets, pentagramme. Et c'est les magiciens qui utilisent ça pour faire leurs prières, leurs incantations. Ils mettent souvent... la victime au centre. Ils mettent une victime au centre et ils allument des feux au coin, au sommet. Ils mettent aussi des humains au sommet et ils font leurs incantations. Il faut faire attention avec ce genre de symboles, à mettre ça sur ses vêtements ou autre part. Nous passons au symbole qui suit. Le S satanique, ça ressemble à un éclair. Il y a même un logiciel sur Internet, Winamp, je crois, qui a le même symbole. Donc, on peut toujours prendre des remplaçants de ce logiciel-là. Il y en a beaucoup. C'est dangereux. Et ça aussi, on retrouve ça dans beaucoup de choses. On prend le symbole suivant. Il y a la croix inversée que les gens appellent peace and love. Mais ce n'est pas peace and love. C'est l'idolâtrie indirecte. Ça ne peut que nous attirer des ennuis. Il faut faire attention. C'est une croix inversée qu'on a cassé les branches. Ça symbolise pour les gens du monde des ténèbres, ça symbolise la défaite de Jésus. Donc, on a inversé la croix et beaucoup de satanistes utilisent ça. Nous passons au symbole suivant, le yin et le yang. Une grosse partie, une moitié blanche avec un point noir à l'intérieur qui symbolise le fait que dans le bien, il y a le mal. Et une partie noire avec un point blanc qui symbolise le fait que dans le mal, il y a le bien. Donc, ça crée le désordre. On ne sait plus quoi faire. Donc, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, c'est confus. Le but, c'est d'amener les gens dans la confusion. Mais c'est clairement satanique. Il faut faire attention. C'est lié au mystique oriental. Il y a le soleil qu'on retrouve même sur l'horloge de Rouen, le vieux horloge de Rouen. Ça symbolise le dieu égyptien Amon-Ra, le soleil. Et il faut faire aussi attention à ce symbole-là qu'on va retrouver dans plusieurs endroits. Il y a le Néouchtan actuel. On voit beaucoup de chrétiens mettre même ça, l'étoile de David. Même nous, autrefois, on croyait que c'était potable. Mais si on lit bien la parole, ce n'est pas potable. Dieu n'a jamais demandé des représentations. Et quand on s'est renseigné sur l'histoire de ça, c'est la famille Rothschild qui est une grande famille sataniste connue dans le monde entier, qui a beaucoup de banques et beaucoup d'affaires, une très très grande famille sataniste qui a construit le Parlement israélien. C'est cette famille-là qui a mis la pression pour que ça soit le symbole d'Israël actuel. Les rabbins étaient opposés à cela, mais cette famille avait beaucoup d'argent et a imposé ce symbole-là à Israël. Donc, ce n'est pas parce que c'est un symbole de l'Israël actuel que les chrétiens doivent mettre ça dans leur maison ou ailleurs. Il faut faire très attention. La Bible est claire. Dieu ne veut pas de représentation. C'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, une des idoles que Dieu critique dans la Bible, il parle de l'étoile que vous avez mis, l'étoile de Réphan. Donc, il critique même une étoile dans la Bible. Donc, on peut chercher ça dans le livre de Jérémie. Nous continuons. Voilà. Donc, c'est le symbole que l'on a pu trouver par-ci, par-là pour pouvoir afficher. Mais il y a d'autres symboles. Il y a la main de Fatma. Les femmes qui achètent des produits avec la main de Fatma, une main avec un œil à l'intérieur, c'est une divinité islamique démoniaque. Il faut faire attention. Les gens avec les croix avec un homme dessus, c'est la logique des forces des ténèbres qui disent Jésus-Christ est resté sur la croix, donc on l'a battu. Il faut faire attention à ce symbole-là qu'on appelle crucifix. C'est aussi démoniaque. Certains qui ont des chapelets, c'est toujours démoniaque, ça fait partie des astuces de l'ennemi. Il y en a qui ont des objets avec des sirènes des eaux. C'est un démon aussi, cette sirène des eaux, et qu'on chasse souvent d'ailleurs. Il y a certains jouets qui représentent des monstres, il faut faire attention. Il y a actuellement même des jouets où la tête de l'homme, c'est un gros œil. Donc il n'y a pas d'oreille, c'est juste un gros œil, bien aimé. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de beauté dans cela. C'est vilain, mais comment on peut laisser les enfants jouer avec de telles choses? Et c'est la technique de l'ennemi d'envoyer tous ces symboles pour apporter l'adoration indirecte. Il y en a dans leur maison, ils ont mis des photos de leur président, bien aimé. Or, la plupart des présidents sont dans la magie, sont dans le monde des ténèbres, et on met des photos des présidents comme s'ils avaient un pouvoir quelconque. Il faut faire attention, ou bien des photos des hommes célèbres, des footballeurs ou autres. C'est des gens qui ont fait des contrats magiques. Toi, tu viens, tu mets Maradona, tu ne le connais pas. Et la nuit, un démon Maradona vient agir sur ta vie. Attention, n'oublions pas, derrière chaque image, en général, derrière ces images-là, traîne un démon qui n'attend que quelqu'un puisse élever l'image pour pouvoir agir dans sa vie. Il y a certains qui portent des vêtements avec des caractères chinois sans qu'ils connaissent la signification. Si peut-être c'est écrit, tu vas mourir, tu vas faire comment? Donc, tu mets le vêtement, à la maison, il y a des décorations en chinois, mais tu ne sais pas ce qui est écrit là. Il faut faire attention. Je ne dis pas que le chinois est mauvais. Au contraire, il y a beaucoup de chrétiens chinois aujourd'hui. Le réveil, un des grands réveils d'aujourd'hui, c'est en Chine. Mais attention, avant de mettre quelque chose, il faut d'abord en connaître la signification. Et mis à part les symboles, les images, il y a les films, les dessins animés. Aujourd'hui, Harry Potter, Pokémon et d'autres encore plus graves, où clairement on voit les puissances des ténèbres agir. Il y a des dessins animés où on voit un homme avant de se battre, il y a quelque chose qui sort de lui. Il sort de lui lui-même. Donc il devient deux doubles, quoi. Il y a un, le corps, et l'autre, il sort, il a des pouvoirs extraordinaires. Mais c'est ça la sorcellerie. C'est ça les voyages astraux. Les sorciers ont la capacité de sortir d'eux-mêmes et d'aller agir la nuit chez les gens, ou peuvent parfois la journée. Hein. Et c'est ce qui est projeté dans ces films-là. On veut entraîner les enfants dans la sorcellerie. Attention à ces dessins animés, Harry Potter, Pokémon. Et il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Vous savez, nous avons un subconscient et une conscience. La conscience, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on sait. Mais il y a des choses qui sont en nous sans qu'on se rende compte qu'on les a. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Et les messages subliminaux, c'est des messages qui sont passés très vite, de sorte que notre conscience n'arrive pas à savoir ce qu'on a vu, mais alors que c'est resté dans le cerveau. Ce qui fait qu'un enfant peut recevoir des messages subliminaux, être doux quand il est enfant et quand il est adulte, changer complètement parce qu'il avait reçu des messages démoniaques en grande quantité. Et il faut faire attention à tout cela. Et savoir faire voir aux enfants de bonnes choses, trier comme il faut. Il y a des parents qui laissent les enfants devant l'ordinateur du matin au soir. Il y en a qui laissent les enfants devant la télévision du matin au soir sans savoir ce qu'ils regardent. Et déjà même les médecins déconseillent cela. Les médecins disent qu'il y a une limite horaire par rapport au fait de regarder la télévision. Il faut veiller aux enfants quand même. Ce n'est pas des poupées, ce n'est pas des jouets qu'on peut délaisser comme ça. Donc, il faut veiller à leur éducation. Les messages subliminaux sont là, musicaux et visuels. Donc, il y a une Américaine qui avait acheté une poupée, une sorte de jouet pour sa fille. Ce jouet dégageait un bruit de mer, un bruit de vent, de vagues. Et quand elle a fait bien attention, le bruit disait « je te hais, je te hais, je te hais ». Donc, l'enfant n'allait plus bien. Et quand elle a fait attention à ce jouet-là, le bruit de vague, en réalité, c'était qui disait « je te hais », mais d'une façon masquée. Et il faut faire attention à ce qu'on achète. L'ennemi, la stratégie, c'est quoi? C'est te pousser à adorer sans que tu t'en rendes compte. C'est quelqu'un qui est spécialiste du viol. Donc, il viole ta conscience sans que tu t'en rendes compte. Il est spécialiste de la magouille, de la fraude. Il va pas venir officiellement, il va venir d'une manière détournée. Et comprenons ces choses-là parce que beaucoup d'enfants grandissent avec beaucoup de choses dans le subconscient qu'ils ont reçues, mais ils s'en rendaient pas compte et non plus les parents. Et plus tard, l'enfant change. C'est très dangereux. Filtrons ce que les enfants doivent regarder. Et nous allons donc clôturer dans Deutéronome 6, voir qu'est-ce que Dieu nous propose pour éviter cette idolâtrie indirecte, cette adoration indirecte. Qu'est-ce que Dieu nous propose? Il dit ceci à partir du verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul. On peut rallumer, s'il vous plaît. Voilà. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Dieu nous donne un avertissement. Il dit ceci, un conseil et un avertissement. Il dit, quand tu auras des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur inculquer la parole. Tu mettras cette parole sur les frontaux des maisons. Bien-aimés, si on veut décorer, décorons avec les versets bibliques. Si on veut décorer les vêtements, décorons avec les versets bibliques. C'est écrit, tu mettras ça sur des lanières, bien-aimés. C'est écrit, ce n'est pas moi qui écris ça. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, c'est moi qui vous ai sauvés. Bien-aimés, c'est l'ingratitude qui nous mène. Aujourd'hui, il y a même des débats avec des chrétiens qui mettent parfois des animaux comme des pieuvres sur les vêtements, des choses comme ça. Ah, mais bien-aimés, c'est l'Éternel qui nous a sauvés. C'est l'Éternel qui nous a créés. Si on doit l'honorer, c'est avec des versets bibliques qui vont sauver d'autres personnes. Les gens vont dire, c'est de l'extrémisme. Gloire à Dieu. Mais c'est la vérité qui sauve. Nous devons pas être ingrats vis-à-vis de Dieu. Il nous a sauvés. on devient chrétien et après on ne veut pas exposer le Dieu qui nous a sauvés, on veut exposer autre chose. C'est l'ingratitude, c'est la méchanceté. Il y en a qui exposent des photos de leur mari mort ou de leur femme morte ou de leurs parents morts. C'est la méchanceté. Quelqu'un qui est mort, tu l'exposes comme s'il te donnait la vie, alors que le prince de la vie est vivant, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Revenons à la vérité. Exposons l'Éternel. Appliquons Deutéronome 6. Que la parole soit élevée et les autres choses rabaissées. Et notre Dieu sera glorifié. Et l'ennemi sera confondu dans le nom de Jésus. Préservons-nous de toutes ces stratégies à lui. Il cherche à nous nuire. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons comment il agit. Et cela vient d'être dénoncé. Que chacun prenne compte de cela pour sa vie. Libre à nous de suivre. Jésus a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et chacun suivra ce qu'il va suivre. Que ce soit la déchéance, que ce soit la vie. Mais comme Jésus a dit, moi j'ai choisi la vie. Je te propose de choisir aussi la vie. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu s'il y a eu des idolâtries indirectes dans nos vies. Si nous avons adoré d'une certaine manière d'autres choses que Dieu lui-même, nous allons prier que Dieu nous aide à rejeter ces choses-là, à être purifiés par le sang de l'agneau. Seigneur, nous venons prier que tu nous purifies de l'idolâtrie de nos parents. Que tu nous purifies, Seigneur, de l'idolâtrie de notre pays, Seigneur, qui adore la sécurité sociale, Seigneur, qui adore, Seigneur, le communisme, qui adore la rébellion. Purifie-nous, Seigneur, de cette idolâtrie de l'égoïsme, Seigneur, où chacun pense à lui-même. Purifie-nous, Seigneur, de cette idolâtrie, des symboles, des monuments qui sont répandus dans tout le pays, des monuments qui sont vénérés, visités, des gens qui se prosternent d'une manière ou d'une autre devant ces monuments. Purifie-nous, Seigneur, de l'idolâtrie de certains objets. Même si certains, Seigneur, je pense qu'ils ne sont pas dans l'idolâtrie, mais nous avons vu, Seigneur, qu'il y a l'idolâtrie indirecte. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et nous nous exposons la chose. Nous devenons des canaux, des serviteurs de l'autre. Et nous refusons cela et nous te demandons pardon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci de purifier nos cœurs. Continue. Complètement, Seigneur. Que nous ne puissions pas résister à ta voix, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Toi, le Dieu vivant. C'est toi qui sauves le pécheur, même le plus vil de pécheurs, Seigneur. Nous voulons être ton peuple, Seigneur. Nous refusons d'être dans la confusion. Nous voulons être ton peuple qui affiche ta parole, qui n'affiche pas les instruments de l'autre, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous purifier de l'influence des statues parfois qu'on a héritées de nos pays d'origine, Seigneur, sans qu'on sache qui les a faites, Seigneur. Merci de nous purifier, Seigneur, de l'influence des médailles qu'on a portées autrefois, Seigneur. Et on ne s'est jamais repenti de cela. Purifie-nous par ton sang, Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Et restaure-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te servir dans toute la vérité. Nous ne voulons plus avoir honte de ta parole.